L'Église catholique a élaboré une sorte de diagnose de la guerre sur laquelle a modélé son enseignement sur la paix dans l'âge de la modernité du 19e et du 20e siècle. Et dans la pensée transigeante, il y avait cette habitude à penser la paix comme quelque chose qui était perdu à cause de la modernité et à penser la guerre, au contraire, comme la résultat de la modernité même. Et si la modernité avait imaginé la paix perpétuelle comme le fruit d'une illumination de la raison, au contraire, l'Église voyait dans les guerres et dans les crises politiques de la modernité quelque chose qui démontrait que la paix moderne était fallacieuse et n'avait pas aucun autre destin qu'arriver à la guerre. Cet jugement de la guerre comme une sanction divine sur l'apostasie moderne a fait son parcours dans le magistère du catholicisme romain, et c'est à cause d'une série de changements qui se sont été pratiqués, surtout dans le XXe siècle, que la vision de la paix et de la guerre, au contraire, a changé vivement. Et c'était avec Benoît XV et le succès international de cette petite formule de le massacre inutile de la Première Guerre mondiale, qui a donné à l'Église catholique l'idée qu'on pouvait penser la paix pas seulement comme un argument de la revanche antimoderne du catholicisme, mais comme une façon de communiquer, d'interpréter ce qui s'est passé dans le monde. Et la même attitude par Pie XII a eu un succès inférieur pendant la Deuxième Guerre mondiale. Son appel de 1939, tu peux être perdu avec la guerre, tu peux être sauvé avec la paix, et n'avait pas eu le même résultat. Et c'est dans 1962-1963 que Charles-Antoine a perçu dans la crise de Cuba, quand le monde était à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, a perçu la possibilité de recomprendre la paix d'une façon différente, c'est-à-dire à l'intérieur d'une théologie du signe du temple. C'est-à-dire l'idée que dans l'attente de la paix des familles, du monde entier, de pauvres, il y avait une mesure avec laquelle l'Évangile même était rappelé à l'Église. C'est pas une question de dichotomie, l'extérieur et l'intérieur de l'Église, ce qui s'y passe dans le monde séculier et dans le monde catholique, mais était un désir de paix qui rappelait l'Évangile, le cœur de l'Évangile à l'Église. Et ça a aussi eu des développements, soit dans le pontificat de Paul VI, soit dans le pontificat de Jean-Paul II, quand la prise de position très ferme du pape au moment de la guerre, des deux guerres en Irak des années 80, 81 et des débuts du XXIe siècle a montré le fait que le catholicisme romain était capable d'être interprète pas seulement de la position du magistère dans une ligne interne au magistère, mais aussi dans l'attente vraiment du monde entier et des pauvres de sans voix.
Vous avez parlé donc d'une continuité, d'une présence de cette thématique de la paix dans le magistère de l'Église. Maintenant, on revient à François, un pape que a pris ce nom qui évoque le Saint d'Assise, mais aussi ce qui va avec lui, la paix, le dialogue. Professeur Meloni, à votre avis, y a-t-il une théologie de la paix dans le magistère et dans la pensée du pape François?
Bon, François, dans la première rencontre avec les journalistes après le conclave, a dit que le nom de François était choisi pour deux choses, la pauvreté et la paix. Et on avoue les deux très visiblement dans son façon d'être pape. Et François a une habitude qui peut créer quelques difficultés à ses lecteurs et interprètes, c'est-à-dire il donne jamais les sources de sa pensée. Il n'a pas l'habitude de faire des citations baroques pour montrer les sources de sa culture, mais au contraire, il concentre son initiative, sa parole, sa prédication sur l'Évangile comme tel. Et là, il y a une idée très forte de la paix en lui. Et c'est dans cette concentration évangélique, dans l'essentiel de l'Évangile, qu'il trouve les sources d'une annonce de paix, comme capacité de ramener la situation contemporaine à la dimension même de l'évangile. J'ai été très touché quand, dans le mois de septembre 2013, dans le moment dans lequel la guerre en Syrie était considérée par beaucoup de gens très proches, imminente, et le pape a annoncé une nuit de prière exactement dans le sens de l'évangile de Marc, de l'exorcisme pour les démons qui peuvent être battus seulement avec la prière et le jeûne. Et ce type de communication évangélique très simple, mais très essentielle, a été perçu par tout le monde comme quelque chose de qui faisait appel à un engagement personnel. Et pas seulement les catholiques, pas seulement les chrétiennes, même des non-chrétiennes, même des non-croyants, ont vécu cet appel comme quelque chose qui faisait appel à sa propre intériorité, et ils ont montré l'adhésion à ce type de choses. Et dans cette concentration évangélique, il y a la théologie de la paix de François, même dans les conséquences politiques que ça va donner. On est habitué à penser au monde dans la ligne des distinctions Est-Ouest, et dans la pensée, on peut dire comme ça, naturelle de François, la ligne de démarche, c'est Nord-Sud, et ça va changer beaucoup la vision du monde, la vision de la position des États-Unis, la vision de la position de la Chine.
Comment faut-il comprendre la paix chrétienne dont François se fait l'annonciateur? Faut-il la comprendre comme un appel ou comme une construction ou comme les deux?
Je crois que dans l'annonce de la paix du pape François, il y a cette conviction profonde que la paix n'a pas seulement quelque chose à faire avec les relations internationales, mais a quelque chose à faire avec Jésus-Christ. C'est le nom même du Christ. Dans la lettre aux Éphésiennes, qui est donnée comme telle. Alors il y a cette idée que l'annonce de la paix comme telle, c'est le service que l'Église peut rendre au monde entier. Un service qui passe dans la conversion de l'unité, la conversion au détachement du mécanisme des pouvoirs, et aussi une conversion qui offre à tout le monde, même aux non-croyants, la possibilité de rencontrer l'Église à sa propre place, non à la place d'un soutien idéologique à une pensée de droite, comme était quelquefois, surtout aux États-Unis, pour le christianisme en général, mais la peut trouver sur la place propre, à sa propre place, de l'annonce du Christ, Seigneur de la paix.
Le témoignage du pape François, qui est attentif à la culture du dialogue, peut-il avoir des influences sur le monde de la pensée laïque?
Oui, je pense que oui. Cette capacité de François de parler la langue simple de l'Évangile a étonné beaucoup de gens qui ont pensé pour des années ou peut-être toujours que l'Église et le christianisme n'étaient pas ça. Et alors ce qu'on appelle avec une expression pas tout à fait adéquate, on appelle la capacité de communication du pape François. Et mais bon, dans cette intensité évangélique, il y a quelque chose qui touche tout le monde et qui sonne comme quelque chose de nouveau dans les panoramas et dans les moyens de présentation et d'autoprésentation du catholicisme romain.
La présence du judaïsme dans le tissu historique de notre culture occidentale peut susciter une réflexion à celui qui pense ou s'interroge sur le sens et sur l'avenir de notre culture occidentale.
L'Occident, c'est une catégorie assez ambiguë, bon, assez fallacieux. L'Occident était quelque chose que l'Église, même récemment, a perçu plutôt comme un risque, même quelque chose d'important pour l'unité chrétienne et consacré par une tradition très longue. Le titre de patriarche d'Occident du pape a été enlevé dans l'annuaire pontifique, du titre officiel du souverain pontife, car l'Église a pas voulu cette identification avec l'Église et l'Occident, que c'est aussi cause des problèmes et des ennuis dans ces différents endroits du monde. Et avec le judaïsme, la question de la paix se pose surtout à deux niveaux. C'est-à-dire, l'antisémitisme a été pour des siècles un des facteurs qui a mobilisé la violence religieuse à l'intérieur du christianisme. Et le fait de l'amitié entre juifs et chrétiens, la conversion de l'antisémitisme pratiqué à Vatican II, ça a donné à l'Église la possibilité de penser, de comprendre sa propre relation avec l'autre d'une façon très, très différente. Et vous savez, Vatican II, il y avait un document de Judaïs qui était préparé par la Secrétariat pour l'Unité à l'impulse de Jules Isaac et de Pape Jean III. Et ce document a eu une itinéraire assez compliqué. Et dans les années 64, on a pensé de cacher la question du judaïsme qui était dans ce document avec la mention des autres religions. Notre traité vient de ça, de l'idée d'ajouter à une petite déclaration sur le judaïsme et les autres religions pour essayer de cacher cette question judaïque trop vif pour les chrétiens arabes et des autres. Mais au contraire, on a montré comme la relation intrinsèque et asymétrique entre christianisme et judaïsme, c'est la clé de toute relation avec l'altérité. Dans un monde dans lequel on parle de clash of civilization, de éclats de civilisation, l'Église catholique a été capable, à cause de notre traité, d'anticiper les mouvements de la violence religieuse qu'on a vu à la fin du XXe siècle avec la prière d'Assisi, et encore aujourd'hui avec les pèlerinages en Israël des chrétiennes en quête d'unité. Et il y a un témoignage que c'est sur ce point de la rencontre de l'autre que l'Église rencontre soi-même sa propre essence plus profonde.